Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans Du Grain à Moudre. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Une émission préparée par Fanny Richet, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Alain Benoît. L'émission d'avant-hier nous en a apporté la preuve. Les questions scientifiques sont de celles qui fâchent. Il est vrai que nous n'avions pas choisi la voie la plus paisible en opposant un journaliste ayant enquêté sur la nocivité des produits chimiques et un ingénieur devenu conseiller en communication d'industriels de la chimie. Le débat fut agité, peu conforme à la trêve des confiseurs dont nous n'avons jamais été aussi proches. Alors pour cette dernière émission avant les vacances de Noël, vacances toutes relatives d'ailleurs en ce qui nous concerne puisque Le Grain continue pendant la prochaine quinzaine avec Mélanie Chalandon, nous avons choisi de rectifier le tir. Pas de polémique scientifique aujourd'hui, mais une approche presque amoureuse, en tout cas ludique des sciences. Le prétexte nous en est fourni par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui déclarait il y a quelques jours vouloir redonner le goût des maths aux élèves en renforçant la place du jeu. Est-ce la bonne manière de faire aimer les sciences ? C'est notre sujet du jour. Et j'avoue que je n'ai pas osé prononcer le titre qui s'affiche sur notre site internet, mais je vais quand même le faire. Il est assez compliqué peut-être à l'oral, plus facile à regarder qu'à entendre. 1 plus racine de 5 divisé par 2 est-il égal à LOL multiplié par MDR ? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a posé. Je vous dis, c'est peut-être plus visuel qu'oral, peut-être que d'ailleurs parce que les mathématiques sont une discipline plus visuelle qu'oral, ce sera... Pourquoi pas, un des thèmes de discussion avec mes trois invités du soir. Mes trois invités à commencer par vous, Marion Montaigne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de bande dessinée. On peut avoir un aperçu de votre travail sur votre blog « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même ». Ce sont des réponses scientifiques dessinées à des questions qu'on se pose parfois, en tout cas que vous posez. Votre travail sur votre blog s'est transformé en publication. Trois BD. La dernière vient d'être publiée chez Delcourt. C'est le troisième tome de « Tu mourras moins bête », sous-titré celui-ci, « Science un jour, science toujours ». Pour discuter avec vous ce soir, une philosophe, Elena Pasquinelli. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous intéressez-vous à la façon dont les sciences sont enseignées. Enfin, vous aurez l'occasion de nous préciser quels sont vos centres d'intérêt. Vous êtes membre de la fondation La Main à la Pâte, une fondation qui a son siège à l'Académie des sciences. Vous nous expliquerez là aussi de quoi il s'agit. Et vous avez publié cette année, aux éditions du Pommier, du labo à l'école, science et apprentissage. Et puis notre troisième invité, Didier Nordon, bonsoir.
Bonsoir.
Mathématicien, vous êtes un ancien prof, vous avez enseigné les maths à l'université de Bordeaux, chroniqueur pour le mensuel Pour la Science, vos chroniques viennent d'être publiées chez Belin, Scientésie, chronique narquoise d'un mathématicien. Alors c'est un petit peu votre faute, d'ailleurs Didier Nordon, si... On a trouvé ce titre absolument imprononçable, puisque le fameux 1 plus racine de 5 divisé par 2 fait l'objet de la première chronique de votre recueil.
Vrai, oui.
C'est le nombre d'or. Alors, peut-être avant que vous nous expliquiez ce que c'est que le nombre d'or, je fais un petit tour d'horizon. Marion Montaigne et Elena Pasquinelli, vous savez ce que c'est ?
Dans le noir. Ah si, si, le nombre d'or, si on l'utilise en art, on l'apprend dans les écoles d'art. Mais je n'avais pas compris l'allusion.
Ben peut-être parce que justement, on n'avait pas l'habitude, Didier Nordon, de le voir interprété sous cette forme strictement mathématique. C'est d'ailleurs l'objet de cette première chronique qui ouvre votre recueil. En gros, vous dites, voilà, la façon dont on appelle ce nombre et dont on le présente, ça témoigne finalement de la société dans laquelle on vit.
Oui, il y a plusieurs aspects qui sont un peu amusants pour moi avec le nombre d'or. C'est que mes collègues mathématiciens actuellement, j'en connais pas qui attachent beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance à ce nombre. Pour eux, c'est un nombre parmi tant d'autres qui a ses propriétés, mais comme tout le monde a ses propriétés, tous les nombres ont leurs propriétés. 1 plus racine de 5 sur 2, alias nombre d'or, ne les intéresse pas spécialement. Ils peuvent le dire sur tous les tons. De toute façon, la société a une espèce de fascination pour ce nombre. Alors, l'affaire est vieille, puisque elle remonte au moins au 15e siècle. Il y a un moine italien qui a appelé ce nombre la divine proportion. L'idée est que si vous décidez, parce que c'est une décision, je pense, que la plus jolie façon de diviser un segment AB, c'est de mettre le point C d'une certaine façon, tel que BC sur AC égale AC sur AB, quelque chose comme ça. Vous tombez et vous arrivez à une équation qui vous amène dans la solution, dont une des solutions est 1 plus racine de 5 sur 2, qui s'est appelée au 15e siècle donc la divine proportion. Donc à une époque où la religion dominait, on voyait dans ce nombre censé être particulièrement élégant, on voyait une divine proportion. Et puis au 19e siècle, il y a un professeur allemand qui a changé le nom pour nombre d'or. C'est celui qui est actuellement en cours. C'est ce nom-là qui a actuellement lieu. Ça m'a amusé de voir là une espèce de résumé, de symbolisation de la marge de notre société. À l'époque la religion domine, eh bien, on voit ce nombre comme une divine proportion. À l'époque où le capitalisme commence sa marche triomphante, eh bien, on voit dans ce nombre un nombre d'or. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est que les mathématiciens peuvent s'époumoner à dire que ce nombre n'a pas spécialement d'intérêt, pas plus qu'un autre. Quand même, la société continue de ne pas les écouter et d'attacher de l'importance et de l'intérêt à ce nombre, d'attacher une espèce d'aura quasi mystique ou religieuse.
Vous parlez même de relations affectives par rapport par rapport à ce nombre d'or. Elena Pasquinelli, est-ce que justement l'affectif, c'est quelque chose d'important par rapport aux formules mathématiques ou aux formules scientifiques? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une approche presque poétique, finalement, des sciences?
Il y a beaucoup d'exemples des scientifiques passionnés de poésie et de poètes peut-être passionnés de sciences. Je ne saurais pas vous répondre à cette question. Je dirais, en allant plus vers ce qui est mes centres peut-être d'intérêt vers l'enfant, il y a sûrement une relation émotionnelle à, pas aux formules, pas nécessairement aux formules, hein, peut-être ça vient après avec un apprentissage, mais sûrement à la curiosité du monde naturel. La curiosité est une émotion, au fond. Donc, et cette curiosité qui fait bouger les enfants vers le monde qui les entoure, à se poser des questions tout le temps, à chercher à découvrir, à toucher ici et là, à manipuler, à faire changer les choses pour se donner des explications. Mais cette curiosité est une émotion, donc
pour qu'un enfant, moteur. Pour qu'un enfant réussisse à s'approprier une formule mathématique, par exemple, c'est important d'habiller cette formule d'autre chose que justement des chiffres, c'est-à-dire de l'accompagner par exemple d'un récit de celui qui a trouvé cette formule, que ça peut vouloir dire autrement que par ces chiffres.
Il y a beaucoup, beaucoup de voies. Hein. Je ne dirais pas qu'il y a une seule voie pour amener un enfant à s'émerveiller et à éprouver de l'émotion ou du plaisir, hein, face à une formule ou à un fait scientifique ou à une découverte scientifique, à une exploration scientifique. Il y a beaucoup de manières différentes parce que justement, là, on en discutait brièvement quand on s'est rencontrés avec Didier dans les couloirs. Des mécanismes que les enfants ont pour s'intéresser, s'expliquer le monde est tellement varié, est tellement riche. C'est un couteau suisse bien armé de plein d'outils différents. Et en allant un peu toucher à chacun de ces outils, on touche aux intérêts vifs de l'enfant. Et tous les enfants n'étant pas pareils, il faut un peu aller essayer tous les outils du couteau suisse pour trouver celui qui fait vraiment bouger l'intérêt de l'enfant en question.
Marion Montaigne.
Quand vous parliez du nombre d'or, moi je me revoyais à 8h du matin en cours d'histoire de l'art, pas réveillée, avec un prof qui essayait de nous montrer par des droites, etc., qu'il y avait un nombre d'or dans ce tableau, que c'était fantastique.
Vous vous en frottez les yeux, hein, en racontant ça.
Non, c'est de la douleur en fait. Il y avait même pas, heureusement, il n'y avait même pas la formule, parce que rien que le nombre d'or, lors d'un cours d'histoire de l'art, il y avait la moitié de la classe qui a dit c'est pas possible. Il y a une sorte de souffrance, rien que tout ce... Déjà les maths, mais si en plus vous nous mettiez la formule, je crois que la prof aurait perdu les trois quarts. 99% de la classe.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu maso, alors justement, Marion Montaigne, vous qui avez peut-être souffert à cause de certaines formules mathématiques, de vous frotter aujourd'hui à la science et d'essayer de faire ce qui est sans doute peut-être un des exercices en tout cas les plus difficiles, c'est-à-dire d'illustrer des questions scientifiques?
Alors, moi, je ne fais pas beaucoup de maths parce que c'est justement un domaine qui me fait un peu peur. Mais par contre, des fois, je vais rencontrer des physiciens et des fois, je me moque d'eux parce qu'ils se font des blagues avec des maths. Ils regardent des tableaux, ils remplacent des calculs et ils sont morts de rire et moi, je ne comprends rien. Et je rigole du décalage. Mais Ces histoires, moi je crois surtout que j'essaie de dédramatiser parce qu'il y a une sorte de mise sur un piédestal de celui qui sait et les autres peuvent toujours crever dans leur coin comme des profanes. Et moi j'essaie de voir des chercheurs qui se mettent à mon niveau, qui m'expliquent. Moi je leur dis, je comprends rien ce que tu me racontes là, tu viens me sortir un truc, je comprends rien, il y a que toi qui rigole. Et lui il est obligé de m'expliquer et je vais pas le lâcher tant qu'il m'aura pas expliqué avec des mots simples. Et de toute façon, il me faut des visuels pour ma BD donc. Je ne lâcherai pas.
Et moi, il me faut des exemples pour mon émission. J'aimerais bien savoir ce que ça peut être. Par exemple, une blague de prof de maths, Didier Nordon.
Oh là là.
Vous en avez une là ?
On va rire.
On va voir si ça marche.
Accrochez-vous.
Hein.
Des blagues de prof de maths, il y en a énormément. Ça, comme dans tous les milieux professionnels, j'imagine. Enfin, il n'y a que l'embarras du choix. J'hésite une seconde. Bon, on a parlé récemment de Grothendieck. C'est un mathématicien qui était très célèbre. Il est mort il y a quelques semaines. Ça a été un moment où on a reparlé de lui. Alors, il existe une anecdote qui court à son sujet. Peu de chance d'être vraie, l'anecdote, mais ça n'empêche pas de la raconter. Il faisait une conférence dans les années 70, quand il faisait encore des maths. C'était avant le moment où il est passé à l'écologie. Il faisait donc une conférence de Grothendieck. C'est du ultra, ultra abstrait, ultra difficile, de haut niveau. C'est pas la peine que j'y aille, je suis largué avant même qu'il ait ouvert la bouche. Mais malgré tout, le malheureux... dans son exposé ultra théorique, ultra abstrait, il a eu besoin d'un brave petit nombre premier, tout simple, tout bête comme vous et moi, un nombre premier qu'on y a partout. Il a dû un pronom 57, par exemple. Alors, éclat de rire immense dans la salle, parce que la salle, c'était que des mathématiciens. Et pour des mathématiciens, il y en a 57, c'est une espèce de donnée immédiate de la conscience que c'est 3 fois 19. C'est pas une seconde, on n'imagine pas une seconde l'hypothèse que ça puisse être un nombre premier. C'est 3 fois 19, 57. C'est évident, immédiat, pour n'importe quel mathématicien qui assiste à un cours, enfin, qui fait des maths. Enfin, bon, c'est... Donc, quand Grothendieck prend 57 comme nombre premier, c'est l'éclat de rire immédiat et général. Parce que c'est des matheux professionnels. Pour eux,
mais parce que ça fait beaucoup rire à Marion Montaigne, mais je ne suis pas sûr que ce soit un rire
57,
lié à une compréhension directe.
Oui, oui. Voilà, 57, c'est 3 fois 19, donc ce n'est pas un nombre premier, c'est une erreur de débutant. Ah. Et comme les mathématiciens ont le goût de la généralisation, il existe maintenant ce qu'on appelle le nombre premier de Grothendieck. Et le nombre premier de Grothendieck, c'est une erreur, une énorme bourde de débutant commise par un mathématicien de premier ordre.
Voilà, c'est-à-dire... donc si vous êtes dans une soirée avec des mathématiciens, vous pouvez aisément ressortir cette anecdote, même si elle n'est pas vraie, comme vous dites, Didier Nordon, ça vous permettra de briller. Alors ce qui illustre peut-être d'ailleurs l'anecdote que vous venez de raconter, Didier Nordon, c'est aussi la difficulté qui peut peut-être y avoir, quand on est justement mathématicien, à transmettre une connaissance mathématique, alors en particulier quand on est prof à des élèves. Je voudrais vous faire... entendre un témoignage d'un autre prof de maths, il s'appelle François Sauvageau, il est prof de maths en classe prépa au lycée Clémenceau à Nantes. C'est un des personnages d'un documentaire qui est sorti au cinéma cette année, qui vient d'être édité en DVD, « Comment j'ai détesté les maths », documentaire d'Olivier Payon. Et lui, donc François Sauvageau, il explique comment il essaie de faire passer ses propres images mentales à ses élèves.
C'est dur d'enseigner parce que je me suis rendu compte que j'avais mon monde intérieur dans lequel j'avais fabriqué plein d'images qui me servent, qui sont des analogies fortes, qui me permettent de comprendre le monde. Les mathématiques, pour moi, ce n'est pas du tout une vérité unique, qui serait un objet idéal que tout le monde va trouver et trouver de la même façon et décrire de la même façon, mais pas du tout. Pour moi, les mathématiques sont polysémiques, c'est-à-dire qu'il y a un sens pluriel, et en plus, la façon de l'interpréter est personnelle à chacun. C'est-à-dire que, bon, en plus, on fait deux, ok, mais en fait, la question est de savoir si... Quand on dit 1 plus 1 égale 2, est-ce que l'important c'est le résultat ? Est-ce que c'est l'addition ? Est-ce que c'est le fait que c'était 1 ? Je rajoute 1, donc ça veut dire j'étais tout seul, j'ai trouvé quelqu'un, ben voilà, on est deux. Et donc la difficulté, c'est de trouver les bonnes images pour que chacun trouve son compte dans l'image qui va être proposée. Donc c'est beaucoup plus facile en solo que ben, par exemple dans une classe où on est 30, 40, et bon ben là chacun a son image intérieure et j'y peux pas grand-chose, c'est-à-dire que moi je projette la mienne et advienne que pourra.
Voilà un extrait de Comment j'ai détesté les maths d'Olivier Payon qui vient de sortir en DVD aux éditions Blackout. Elena Pasquinelli, est-ce que ça fait partie, ça, des difficultés dans l'apprentissage des matières scientifiques que de réussir à faire visualiser ce que l'enseignant projette dans son esprit ?
Plus que de visualiser, je dirais que des fois, quand on pense aux difficultés de l'enseignement des sciences, ou enseignement en général, hein, on pense aux difficultés de l'apprentissage, c'est-à-dire aux difficultés de s'approprier de certaines notions, connaissances, méthodes qui sont objectivement difficiles. Ben, en science, il y a des choses qui sont difficiles, ne sont pas naturelles pour notre pauvre cerveau ne vient pas naturellement. Donc il y a toute une série de difficultés qui naissent banalement de là. On se donne des explications, elles sont fausses, on s'y attache, on les garde. Plein de difficultés du côté de l'apprentissage, c'est bien de les connaître. Mais peut-être, et c'est lié à cette idée des images mentales de l'enseignant, une chose qu'on oublie, c'est que l'enseignant aussi a un cerveau. C'est le scoop du soir à noter. Mais l'enseignant aussi a un cerveau. Les enseignants aussi ont un cerveau. Et le cerveau, deuxième scoop, le cerveau des enseignants, comme celui des élèves, des apprenants, est limité. C'est-à-dire qu'on fonctionne un peu à notre manière. On a notre manière de comprendre. On a nos difficultés à transmettre. On a des préférences. Je préfère enseigner d'une certaine manière. Après, on nous dit qu'il y a une bonne manière d'enseigner parce qu'elle est plus efficace que les autres. Mais des fois, elle ne colle vraiment pas avec ou notre cerveau ou le cerveau en général. Et donc, il y a ces deux difficultés, les deux cerveaux qui se rencontrent et tous les deux ou à plusieurs, ont leur manière de se former, leur représentation et de transmettre et de penser que c'est la bonne manière d'apprendre. Et ce n'est pas le cas pour l'autre. Donc là ce n'est pas qu'une question d'image. Je pense que c'est vraiment une question des fois de décalage entre...
Marion Montaigne, est-ce que c'est parce que cette rencontre ne s'était pas faite au cours de votre scolarité que vous avez eu envie de revenir aux matières scientifiques par le dessin, en essayant à la fois peut-être de comprendre des choses que vous n'aviez pas compris à l'époque et puis de transmettre aussi une forme de connaissance?
Moi, je me rends compte maintenant qu'à l'école, j'avais un problème. J'étais très visuelle et pas auditive. Donc les cours d'histoire, c'était un peu la catastrophe. Et si on me dessinait les mathématiques, ça allait mieux. Je pense j'ai préféré aussi la biologie parce qu'on nous montrait, on nous faisait des schémas, des dessins. Je pense vraiment que j'avais un cerveau. Ça me rassure d'entendre ce qu'a dit le monsieur, parce que moi, quand je fais un calcul mental, ce qui arrive pas souvent, je dois visualiser des dés et je dois les vérifier, je dois compter les points et ça me prend un temps fou et je panique. Quand j'ai une soustraction, c'est pire. Je dois vérifier dans ma tête et des fois, je visualise pas le dé parce qu'on me parle. Et j'ai des techniques très compliquées pour faire des soustractions et ça prend un temps fou et on pense que je suis nulle, c'est vrai, mais je suis aussi très lente, mais j'ai besoin de vérifier et il y a une sorte... Moi, c'était la panique, en fait, de me planter en mathématiques. Faut que ce soit automatique, en fait, que... Il y en a, les matheux, ils regardent une formule, ils font « c'est comme ça ». Point barre. Et moi, je suis « non, attends, faut que je vérifie, attends, non, et puis... » Je sais pas, j'ai l'impression que ceux qui aiment les maths, ils ont un cerveau mieux rangé que le mien, je ne sais pas comment dire.
Est-ce que c'est justement ce souci de vérification qui vous a amené à poser un certain nombre de questions? Alors, j'en donne quelques-unes. Enfin, ce sont des questions d'ailleurs qui ne vous sont pas posées directement à vous, Marion Montaigne, mais à votre, je ne sais pas si c'est votre alter ego, un personnage, et qui s'appelle le professeur Moustache, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une dame. Je ne sais pas quel âge elle a. Mais en tout cas, à qui on pose les questions suivantes, je crois que c'est celle du tome 3 que j'ai relevé. Pourquoi les ados sont mous? Voilà, ça c'est une question qui m'intéresse en ce moment. Les séries médicales sont-elles crédibles? Ou pourquoi ça fait mal un coup dans les bijoux de famille? Est-ce que c'était ce souci de vérification? Vous avez dit, tiens, ça c'est des choses que j'aimerais comprendre vraiment et donc je vais aller me confronter à des scientifiques qui pourront m'apporter ces réponses-là?
Alors, il y a d'un côté, je me dis, il y a l'information quelque part, forcément. Elle y est en plus, il y a des recherches complètement tarabiscotées aujourd'hui. Il y a forcément quelqu'un qui s'est posé la question avant vous. Mais ce qui est frustrant, c'est moi, ça me rend folle d'être dans une bibliothèque, c'est que je sais qu'il y a l'info. Le défi, ça va être de la trouver. Donc je fais une enquête et je suis un peu butée. Je me dis, c'est pas parce que j'ai pas bac plus 6 que je vais pas comprendre. Alors je suis un peu. Oui, je vais essayer de me venger sur mon passé. Mais moi, je trouve qu'il y a une certaine poésie qui rejoint l'artistique, puisque je suis dans le domaine artistique. C'est-à-dire que moi, ça me fascine qu'il y ait des gars qui, ont travaillé sur se demander pourquoi vous avez envie de vomir quand vous recevez un coup très violent. Alors parce qu'à cause des connexions qu'il y a dans votre corps, votre cerveau croit que vous êtes attaqué à l'estomac, etc. Enfin, un médecin...
Puis c'est une question qu'on est en train d'autre. D'ailleurs, vous demandez aussi, mais pourquoi, là, toujours dans le cadre de cette question, pourquoi Dieu, finalement, puisque c'est Dieu qui a tout fait, c'est bien connu, pourquoi Dieu a placé ces bijoux de famille si sensibles à l'extérieur du corps et non pas à l'intérieur, ce qui permettrait de les protéger
davantage? Mais il y a différentes hypothèses. Il y a des biologistes qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que c'est pour réguler la température, mais à ce moment-là, pourquoi l'éléphant les a à l'intérieur? Et alors, tout le monde se pose des questions. Mais c'est passionnant. C'est mal fichu, c'est tout. Alors, peut-être que l'évolution veut que vous les montrez. Les hommes les montrent finalement entre eux, enfin je sais pas. Mais c'est hyper dangereux d'avoir... plus aller faire du cheval en étant foutu.
Elena Pasquinelli, est-ce que dans le cadre de la fondation à laquelle vous appartenez, donc la main à la patte, vous allez nous expliquer justement en quoi ça consiste, mais est-ce que c'est ce genre de travail que vous essayez de mener avec vos élèves, c'est-à-dire faire parler au maximum leur curiosité à travers justement une forme d'expérimentation. Enfin, je ne sais pas jusqu'où est allée l'expérimentation par rapport au dernier sujet que vous avez évoqué, Marion Montaigne.
On peut imaginer plusieurs expérimentations possibles, pas nécessairement, pas nécessairement les reproposer demain au primaire. Mais, ouais.
Ni ce soir dans le cadre de l'émission, si vous voulez bien.
Non, mais c'est vraiment ces genres d'attitudes surtout qu'on cherche à stimuler, c'est-à-dire cette curiosité un peu insatiable, ce besoin d'aller à la recherche des réponses, de toutes les questions qu'on peut se poser pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a entendu quelqu'un qui dans la rue, à un certain moment, a nommé quelque chose d'extrêmement bizarre. Ce mot commence à nous hanter, ou pour un enfant, parce qu'il a entendu une conversation très bizarre. Et ça, c'est quelque chose qui a stimulé sa curiosité, ou parce qu'il a observé quelque chose dans la rue, dans la classe, ou parce qu'il a eu un très, très bon enseignant qui l'a amené à se regarder autour, à regarder les objets qui l'entourent. Il y en a plein. Et à les regarder avec un regard nouveau, en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'il fait là, cet objet, comment il fonctionne, s'il le jette par terre, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi il va se passer de cette manière. Donc oui, c'est un peu dans l'idée de cultiver cette attitude et d'arriver à la perdre le plus tard possible, si possible jamais, cette attitude à avoir envie de répondre à des questions.
Donc l'idée, c'était quoi? L'idée de la Fondation La Main à la Patte, c'est de se dire les enfants sont naturellement curieux et on perd cette curiosité au fur et à mesure qu'ils gravissent les échelons
On perd cette curiosité ou on la garde. J'ai pas des statistiques sur combien de personnes perdent leur curiosité à l'âge adulte. Et je veux pas savoir. Hein. Ça, c'est quelque chose que je veux pas savoir.
Non, mais y compris à l'école pour les sciences. C'est-à-dire, il y a aussi une forme de prévention, en tout cas, même parfois de peur par rapport à ça.
On est sûrement avec cette curiosité. Ça, on sait. L'enfant naît avec cette magnifique curiosité et on peut la tuer de plusieurs manières différentes. On peut la faire l'étouffer de plusieurs manières différentes. Une, c'est de donner toutes les réponses. Il y a une magnifique étude sur ça. Et en 2 minutes, je vous la raconte parce qu'elle est sublime. On prend des enfants, on se met dans une pièce avec un jouet. Et à un certain moment, l'expérimentateur, des enfants à l'âge préscolaire, l'expérimentateur, il commence à expliquer comment le jouet fonctionne. Et à un certain moment, il dit, oh, excuse-moi, j'ai un coup de téléphone, hein, tu m'attends ici et dès que je reviens, je t'explique comment ça marche. Condition numéro 2, l'expérimentateur, il donne toute l'explication sur l'objet. Et quand il a terminé, il dit, excuse-moi, je sors un instant, j'ai eu un coup de fil, je reviens tout de suite. Condition numéro 3, l'expérimentateur, il ne dit rien du tout. Il est là avec l'enfant, avec le jouet. À un certain moment, il prend le téléphone, il dit, excuse-moi, j'ai un coup de téléphone. Dans laquelle des 3 situations, l'enfant, il va le plus explorer cet objet qui est resté, avec lequel il est resté tout seul dans la pièce? Eh bien, dans la situation où l'enseignant, dans ce cas l'expérimentateur, a interrompu son explication. Il a montré qu'il y avait quelque chose d'horriblement intéressant, mais hop, il n'a pas donné toute l'histoire. Donc voilà, donner toute l'histoire pourrait être des fois une mauvaise idée.
Didier Nordon, c'est la façon que vous aviez, vous, d'enseigner les mathématiques quand vous étiez prof?
Il y a prescription.
Oh, c'est pas si vieux. Non, bon, est-ce que l'expérimentation en matière mathématique, c'est quelque chose qui est possible à mener avec une classe?
Bon, moi, j'étais à l'université, donc avec des gens qui avaient déjà choisi de faire des maths. C'est ce genre de questions-là de se poser avec moins d'acuité, disons, que dans des classes primaires ou secondaires. Et je dois dire que l'université est une telle usine énorme que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir énormément de liberté pour expérimenter quoi que ce soit. En plus, faut bien avouer, je suis pris dans le milieu universitaire et c'est pas des gens qui s'intéressent beaucoup à l'enseignement en général, il faut le reconnaître. Et j'avoue là que je faisais ça si possible pas mal, mais bon.
Donnez pas l'impression que vous êtes un peu désabusé, parce que c'est pas du tout la tonalité de votre livre. Hein. Au contraire, il y a d'ailleurs énormément de questions et de réflexions qui sont pas d'ailleurs uniquement liées au domaine scientifique.
Je peux vous dire, je me méfie toujours énormément de quelqu'un qui dit « Oh, moi, je suis comme ci et comme ça ». En gros, je le crois jamais. Quand quelqu'un me parle comme ça, je veux le voir en acte, et puis je vois ce que j'en pense, moi. En gros, les gens qui me disent « Oh, moi... » Bon, je ne les crois pas, en gros. Donc c'est pour ça que je ne veux pas le dire. Oh, moi, j'étais un prof qui faisait pâmer les élèves. va dire ça.
En tout cas, vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui se pose énormément de questions.
Oui.
Il y a plus de questions d'ailleurs et de réflexions
bien
que
sûr.
De réponses que, vous, que vous apportez
bien
dans
sûr.
Ce livre. Tiens, il y a un autre exemple que moi qui m'a beaucoup plu. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans le livre, mais je l'ai trouvé sur votre blog. On a mis d'ailleurs les liens vers vos sites respectifs sur notre site à nous, franceculture.fr. Vous parlez, vous avez consacré une chronique dernièrement, Didier Nordon, au CAPTCHA. C'est-à-dire ces formules que l'on vous demande d'entrer dans des formulaires Internet pour bien vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et vous expliquez qu'en fait, on vous demande d'agir comme un robot pour montrer que vous êtes humain.
Oui, oui, je suis tombé sur un CAPTCHA une fois qui m'a fait rire. Alors que je ne dise pas de bêtises.
1331.
1331, oui. Sauf que ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire parce que c'est 11 au cube. Bon, 11 fois 11 fois 11, ça fait... c'est drôle. Mais non, bien sûr que non, ça n'est pas drôle. Y a pas... L'humour, il n'est pas dans les choses, il est dans les êtres humains. Les maths ne sont pas drôles. Moi, je n'ai jamais pensé que les maths étaient drôles. Je ne crois vraiment pas qu'elles le soient. Les matheux peuvent l'être. Parce qu'ils sont comme tout le monde, dans une situation ou dans une autre. Ils apportent leur humour d'être humain.
Mais alors revenons à notre 1331, c'est 11 au cube.
Ça m'a amusé, bah tiens c'est 11 au cube. Alors si je réponds, si au lieu de mettre dans la case, où je dois, si au lieu de mettre 1, 3, 3, 1, je mets 11 puissance 3, sans doute que mon truc ne va pas pouvoir être publié, on ne va pas me reconnaître comme un humain. Le robot, donc ça veut dire que je suis humain, j'ai affaire à un robot qui ne va pas me reconnaître comme humain, je dois me comporter comme un robot, c'est-à-dire écrire 1, 3, 3, 1, et non pas faire une fantaisie. Disons écrire 11 au cube au lieu de 1331, c'est disons faire une fantaisie qu'un humain peut comprendre, mais que l'ordinateur est probablement, enfin j'imagine que l'ordinateur n'est pas programmé pour la comprendre.
Cela dit, donc je pour être reconnu comme un humain, il faut se comporter comme un robot.
En
parce que c'est un robot
là, oui.
qui va apprécier
voilà,
votre qualité d'humain.
C'est ça qui m'a amusé.
C'est dans la pure philosophie, là.
Je ne sais pas.
Mais
oui,
si,
on, est
allez,
un peu,
mais si.
On est un peu dans la révolte contre la société aussi, contre le type de société dans laquelle on vit.
Mais vous vouliez ajouter quelque chose
Oui, non, je voulais dire quelque chose à Marion. Elle a peur d'avoir la tête mal fichue. Je l'écoutais parler de ses débats avec les nombres, avec les opérations arithmétiques. Et moi, je peux exactement dire la même chose de moi. Mais concernant l'orientation, dans l'espace, je suis paumé complètement, je n'ai aucun sens de l'orientation. Et toute la panique que vous décriviez, ça me faisait rire, parce que c'est exactement celle que je peux décrire pour moi quant aux questions d'orientation. Donc on a le cerveau aussi mal fichu l'un que l'autre.
Ah bah à propos d'orientation, justement, c'est un des chapitres de son dernier livre « Tu mourras moins bête » à Marion Montaigne, puisqu'elle se pose la question de savoir si faire un bac S, un bac scientifique, c'est une preuve de bonne santé mentale. Pourquoi vous êtes posé cette question-là, Marion Montaigne ?
Non, parce qu'il y a des très bons vulgarisateurs anglo-saxons, notamment Bill Bryson ou Marie Roche, qui racontent très bien l'histoire de la science et qui n'hésitent pas, encore une fois, à placer l'humain dans sa réalité. C'est-à-dire, Pythagore, c'était un taré. Des fois, quand ils découvraient le chloroforme, ils en buvaient, ils s'en mettaient partout. Enfin, ils étaient tous un peu ravagés. Enfin, pas tous. Non, mais certains, c'est drôle. Ceux qu'on met... encore une fois, sur des pieds ben c'est des humains comme tout le monde. C'est juste qu'ils ont ajouté une pierre à l'édifice. Donc, c'est la réaction que j'ai. Je trouve que le problème, peut-être en France, je ne sais pas, c'est qu'on a tendance à mettre très en avant les gens qui ont la science vont utiliser un vocabulaire très, très technique pour bien montrer qu'ils font partie du sérail de ceux qui savent.
Ça veut dire que pour vous, par exemple, si on raconte l'histoire du personnage Pythagore ou l'histoire de Newton et de ses expériences parfois un peu plus farfelues que celles qu'on connaît, ça permet d'appréhender plus facilement la science ?
Bah déjà, ça les place dans l'histoire parce que souvent, quand il y a l'un qui avait découvert quelque chose, ça donnait des idées à l'autre. Puis il y avait des conflits aussi dans la science. Tout le monde ne se tient pas par la main. Mais c'est surtout que c'est la manière dont Bryson en parle, c'est-à-dire que ça va être très imagé. Et moi, je visualise très bien le bonhomme qui se prend la tête à faire des recherches. Et ça, il me le raconte comme un roman, en fait. Et donc, c'est pareil, c'est comme le test de la curiosité, c'est-à-dire pourquoi ce type, des fois narcissique, hyper égocentrique, je ne sais plus lequel avait écrit dans un latin complètement insupportable, très dur à lire, ses recherches. Un peu pour exclure le profane. Et, Et s'il me l'avait écrit tel quel, ça aurait été d'un ennui complet. Mais lui, il s'en moque un peu. Et donc, je le lis comme un roman. Et c'est ça qui est chouette pour apprendre.
Si je connais la vie de Pythagore et Elena Pasquinelli, je retiendrai plus facilement son théorème qui, je le rappelle, alors j'avais prévu le coup en fait, et le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. J'avais prévu que vous parleriez de Pythagore, on n'a pas préparé avant, hein, faut pas quand même le dire. Elena Pasquinelli.
Pas mal, oui. Les narrations en général, c'est une porte d'entrée magnifique sur la mémoire, par exemple. On se souvient mieux des histoires. On se souvient mieux des histoires où il y a des causes et des effets, où on nous raconte qui a fait quoi, où il y a de l'émotion, où il y a des histoires entre des personnes, des humains. Parce qu'on s'attache, parce qu'on s'intéresse, on voit, d'un côté, on voit la vraie vie des gens. Et comme tu disais, ça aide à descendre un peu les grands ponts des sciences de leur piédestal, de lire leur biographie, de découvrir qu'ils allaient dormir le soir ou qu'ils disaient énormément de bêtises ou qu'ils aimaient des choses un peu bizarres. Ça, c'est attachant et ça les rapproche de nous. Et pour un enfant, ça fait même penser, mais moi aussi, j'ai fait les mêmes choses, j'ai les mêmes problèmes. Peut-être je ne suis pas si différent. Peut-être un jour, je peux me confronter à ces choses-là. Pas nécessairement être scientifique, ce n'est pas obligatoire, mais m'intéresser moi aussi à ces choses-là. Et il y a l'autre côté qui est vraiment les côtés des histoires. On aime quand on nous raconte des histoires. Qu'elles soient sur des scientifiques ou autre chose, on adore les histoires, même les plus farfelues. C'est pour ça qu'après, on n'oublie jamais les légendes urbaines parce qu'elles sont parfaitement racontées comme des histoires.
Bon, cela dit, Didier Nordon, il y a peut-être une façon aussi de décomplexer ceux qui se disent que la science n'est pas pour eux parce que c'est une affaire de personnes qui parlent entre elles. C'est qu'une de vos chroniques, là encore, de votre livre, évoque le fait que même entre mathématiciens brillants, on ne se comprend pas toujours.
On se comprend même plutôt rarement, oui. Ça m'a amusé dans le livre de Cédric Villani, Théorème vivant. Il raconte, il voyage beaucoup, il rencontre des tas de collègues, il rencontre Voyevodsky qui a eu la médaille Fields comme lui, donc c'est le sommet de la hiérarchie intellectuelle chez les matheux. Et il dit très tranquillement, Villani, je comprends rien, parce que Voyevodsky est probablement...
Il dit, je ne comprends pas un traître mot à la recherche de Vodovsky, et la réciproque est probablement vraie.
Oui, bien sûr, et puis il parle aussi de son copain de Ngo Bao Cho, qui c'est la même génération que lui, et il ne comprend rien non plus à ce qu'il fait. Et ça m'amuse, parce que ça me console déjà. Peut-être d'abord ça me console, parce que en tant que petit mathématicien de base, je suis un peu humilié, je vois ces grands là, eux, ils comprennent tout, moi je comprends rien, c'est un peu lourd. Mais bon, il y en a un qui raconte presque ingénument, ben non, je comprends rien non plus à ce que font mes copains. Et c'est un côté consolant, avant peut-être même d'être amusant pour moi, en tout cas moi qui me suis cassé un peu les dents dans les maths. Ça a plutôt le côté consolant d'abord que amusant. Puis amusant aussi, parce que bon, alors ils sont si puissants que ça, et puis ils sont aussi couillons que moi. Alors c'est marrant.
Ça va à l'encontre de l'idée qu'il y aurait une forme d'analphabétisme scientifique. Là aussi, c'est une notion à laquelle vous réfléchissez, Didier Nordon, et qui est d'ailleurs plutôt remise en cause par les scientifiques.
Ça, pour moi, c'est une des difficultés que j'ai eues avec l'extrême spécialisation. Si vous dites extrême, en particulier du milieu des mathématiques, parce que c'est celui que j'ai connu, mais enfin, c'est très général. À partir du moment où il y a extrême spécialisation, il y a évidemment un alphabétisme. Parce que quand moi, je suis extrêmement spécialisé dans tel truc, mon voisin est extrêmement spécialisé dans tel autre, je suis analphabète, dans son domaine à lui. Et l'hyperspécialisation est une espèce engendre, si j'ose dire, une espèce d'un alphabétisme savant, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais une ignorance en tout cas de ce que les uns font les uns des autres, de ce que font les uns les autres, qui est plutôt triste, quoi. Là j'en ris parce que c'est plutôt avant d'en pleurer, quoi.
D'où l'utilité des ouvrages de Marion Montaigne qui va vers la vulgarisation. Est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels vous vous êtes cassé les dents, Marion Montaigne, en disant cette question j'aimerais vraiment pouvoir la résoudre par mes dessins et je n'y suis pas arrivé?
Mathématiques. La boson de Higgs, j'ai essayé. Je crois que j'ai toujours pas compris ce que j'ai fait. Non, mais c'est si j'ai essayé quand même à peu près grâce au. à ceux qui ont essayé le plus de vulgariser, mais je suis même pas sûre d'avoir réussi.
Mais il faudrait qu'on vous fasse rencontrer un de nos grands scientifiques qui intervient sur l'antenne de France Culture, c'est Étienne Klein, physicien, voilà, qui a une émission tous les samedis. J'en profite pour faire une petite pub pour la chaîne.
C'est 18h-19h. C'est une traduction, en fait. C'est comme un langage et il faut quelqu'un qui arrive à traduire en mots simples ou avec des images, surtout. Moi, s'il y a des images, je comprends tout. Enfin, à peu près. Ouais.
Je ne suis pas sûr qu'il faille trop s'obstiner sur comprendre. Comme un scientifique, après tout, la science, par son côté public, chacun a le droit de la comprendre à sa façon, y compris avec ses faux sens à lui. Son interprétation à lui, il n'y a pas... Ça, je repense à ce que disait le collègue là, François Sauvageau, là, qui disait « chacun a son monde intérieur », il disait en gros ça comme ça. Et vous avez votre monde intérieur qui construit une compréhension de la science et vous n'avez pas forcément besoin de l'estampille d'un scientifique.
Vous vous laissez une place, justement, une marge d'appréciation, une marge d'interprétation, justement, Marion Montaigne, vous n'étant pas scientifique, vous vous dites au contraire, il faut absolument que je sois dans l'exactitude.
D'ailleurs, c'est complémentaire. À la fin, il y a des sources et des commentaires pour compléter. Mais moi, je ne peux pas prétendre en BD tout expliquer, ni au niveau... au niveau universitaire, mais si au moins j'ai donné envie à un adolescent de se rendre compte qu'en fait ce domaine-là est très intéressant, je lui ai donné une bibliographie abordable et il va la lire et ensuite c'est une porte vers s'il a envie de continuer, je trouve que oui, c'est chouette, juste tendre la main, quoi. Enfin, et en plus il y a plein de domaines, parce que c'est pour ça que quand je fais le thème des bijoux de famille, c'est ce qui est super en biologie, c'est qu'on a tous un corps, donc tous dans l'intimité on se pose des questions et j'attire l'attention du lecteur souvent. Les adolescents, on a tous été ados, beaucoup en ont. On sait ce que c'est. Donc c'est... Et puis on se pose tous la question, mais il y a des réponses.
Elena Pasquinelli, je disais que finalement le prétexte qu'on a retenu ce soir pour faire l'émission, c'était notamment cette annonce de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, disant alors pour les mathématiques, mais aussi peut-être plus largement pour les sciences, il faut mettre du jeu pour attirer les élèves. Or, quand on va sur le site de La Main à la Pâte, l'idée de jeu, elle n'apparaît pas.
Non.
Pourquoi ?
Et c'est volontaire. C'est volontaire, c'est pas parce qu'on a quelque chose contre le jeu ou que personnellement j'ai quelque chose contre le jeu. Je pense que c'est des choses différentes. Il y a on peut jouer pour s'amuser et apprendre. Rien n'empêche et même c'est bienvenu. Et on apprend plein de choses en jouant, sans nécessairement qu'on puisse prévoir exactement qu'est-ce qu'on va apprendre à part le fait de jouer. Et de l'autre côté, il y a l'école ou les méthodes d'enseignement ou les stratégies d'enseignement qui ont pour but, pas pour but premier celui d'amuser, mais celui de faire apprendre des choses. Si, en apprenant des choses par ces méthodes, on s'amuse, tant mieux. Ça ne va pas du tout être exclu, mais je pense que c'est deux choses différentes. Il y a aussi des jeux qui ont pur but de faire apprendre des choses spécifiques. Des fois, ça me met un tout petit peu mal à l'aise parce que moi, quand je joue, j'ai envie de jouer. J'ai envie de me détendre. Et si j'apprends des choses, ça va très bien. Hein. Ça m'angoisse pas du tout. Des mal à percevoir après. Mais ce n'est pas mon but premier. Et la chose qui ne me plaît pas trop dans l'idée qu'il faut faire jouer tous les élèves pour apprendre, il faut les faire jouer. Non, ça, soyons clairs. Mais qu'il faut les faire jouer pour apprendre, c'est que dans ces discours-là, des fois, il y a un peu une critique implicite et explicite de la notion d'effort. Or, l'effort n'est pas nécessairement mauvais. L'effort qu'on fait dans la nuit, l'effort imposé, l'effort qu'on fait pas à contrario, oui. Mais l'effort qu'on arrive à susciter, c'est une très bonne chose. On fait un effort et on est tout à fait content de l'avoir fait.
Didier Nordon, l'effort qu'on fait, par exemple, pour résoudre une équation, c'est vrai qu'en ce moment, on la résout, il y a une vraie satisfaction.
Bien sûr, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Elena sur le jeu. Très bien, le jeu, mais si un type éprouve du plaisir intellectuel à une activité, que ce soit scientifique ou pas, ça je m'en fiche, je ne suis pas prosélyte de la science, s'il a un plaisir dans une activité, ça suffit. Il y a pas... Le jeu, pour moi, c'est une espèce de... Peut-être démagogie, c'est peut-être trop dire, mais enfin, une espèce de friandise qu'on donne, mais qui... Non, je suis assez d'accord avec Elena, bref.
Bon, en tout cas, du plaisir, on en prend à la lecture. À quel sens de la transition de vos ouvrages Scientésie de Didier Nordon, chronique narquoise d'un mathématicien chez Belin. Tu mourras moins bête, science un jour, science toujours, c'est le tome 3.
Mais tu mourras quand même.
C'est ce qui nous attend tous. C'est chez Delcourt, Marion Montaigne. ouvrage un peu plus difficile d'accès, voilà, je dirais, pour les enfants et les adolescents. Hein. Ouais, voilà. Elena Paschinelli, mais passionnant, du labo à l'école, sciences et apprentissage, c'est aux éditions Le Pommier. Voilà, à partir de lundi prochain, vous retrouverez du grain à moudre présenté par Mélanie Chalandon. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à partir de lundi à 6h30 pour les matins de France Culture.